nous sommes le vendredi 29 mars 2024 et il est 17h30 en temps universel. Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer dans cette édition. L'Union africaine dit féliciter chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle sénégalaise. En République démocratique du Congo, peine capitale requise contre une dizaine de militaires à Goma. Accident de bus meurtrier en Afrique du Sud, condoléances du président Cyril Ramaphosa aux proches des 45 victimes, toutes venues du Botswana voisin. Les Occidentaux dénoncent le veto de Moscou à la surveillance des sanctions contre Pyongyang. Une quarantaine de soldats syriens et combattants du Hezbollah tués dans des frappes israéliennes. L'Union africaine a chaleureusement félicité l'opposant Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal. Dili Diko.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, félicite chaleureusement le président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la proclamation officielle de son élection au premier tour, avec plus de 54% des voix au scrutin de dimanche, et lui souhaite plein succès dans sa lourde et noble charge, selon le communiqué. Monsieur Faye, 44 ans, jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, va devenir le cinquième président du Sénégal et le plus jeune de son histoire. Début mars, Bassirou Diomaye Faye a bénéficié d'une loi d'amnistie. Il est sorti de prison après 11 mois d'incarcération, juste 10 jours avant l'élection de dimanche, en même temps que son mentor Ousmane Sonko. Dans son communiqué, l'Union africaine se réjouit de l'acceptation unanime des résultats par toute la classe politique sénégalaise qui atteste d'un enracinement profond des traditions démocratiques dans ce pays phare en démocratie africaine.
Un militaire burkinabé et un supplétif civil de l'armée, ou deux supplétifs civils, ont été arrêtés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une source sécuritaire en Côte d'Ivoire affirme qu'un soldat et un volontaire pour la défense de la patrie sont interrogés aujourd'hui à Bouna après leur arrestation avant-hier. Une dizaine de peines de mort ont été requises ce vendredi contre des militaires congolais à Goma, dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Les premières depuis la décision des autorités mi-mars de reprendre les exécutions capitales. 11 militaires, dont 5 officiers, qui étaient sur le front des combats contre la rébellion du M23, sont jugés par la cour militaire du Nord Kivu, notamment pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, indique maître Alexis Olenga, avocat d'un des officiers, le lieutenant-colonel Gabriel Paloukou Dounia. L'accusation a requis la peine de mort contre tous les prévenus. La prochaine audience est prévue le 5 avril et sera consacrée aux plaidoiries de la défense, toujours selon maître Olenga. Le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté aujourd'hui ses condoléances à la République du Botswana et aux proches des victimes du tragique accident de bus. Le véhicule a chuté d'un pont et a fait 45 morts. Lionel Gaïma.
Le bus venait du Botswana voisin et se rendait dans la ville de Moria, dans le nord de l'Afrique du Sud, où convergent chaque année des centaines de milliers de personnes pour célébrer la fête de Pâques. Le chauffeur a, semble-t-il, perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté les barrières de sécurité du pont et s'est abîmé dans un ravin 50 mètres en contrebas. Le président sud-africain présente ses condoléances à la République du Botswana et aux familles et amis de 45 victimes du crash, indique la présidence dans un communiqué précisant que Cyril Ramaphosa s'est entretenu au téléphone avec son homologue du Botswana, Mokwetsi Masisi. La seule survivante de la tragédie, une fillette de 8 ans, est toujours hospitalisée ce vendredi et elle semble hors de danger. Elle reçoit des soins et se porte bien. Elle n'a pas été grièvement blessée, indique le ministère de Transport sud-africain, ajoutant que les membres de sa famille se rendaient à son chevet depuis le Botswana.
Également dans l'actualité à Madagascar, le bilan du cyclone Gaman qui a soudainement frappé le pays avant-hier s'est alourdi à 18 morts avec des maisons emportées et plus de 20 000 personnes déplacées d'après les autorités. Des habitants disent n'avoir rien à manger en raison des inondations et que leurs enfants sont malades à cause de l'eau sale. Nous demandons de l'aide, ajoute-t-il. De nombreuses routes et ponts ont été inondés et coupés du monde. Certaines personnes se sont noyées. D'autres ont été tués par l'effondrement de maisons ou la chute d'arbres. Selon les autorités, le cyclone, qui devait initialement frôler l'île de l'océan Indien, a finalement changé de trajectoire et touché le nord. Human Rights Watch exhorte le Parlement somalien à rejeter un amendement constitutionnel qui revient, selon elle, à baisser l'âge de la majorité de 18 à 15 ans. Pour l'ONG, un tel changement risque d'affaiblir la protection des droits des enfants. Le projet de modification doit être discuté demain au Parlement. L'amendement proposé visant à fixer l'âge de maturité à 15 ans exposerait particulièrement les filles à un plus grand risque de mariage, ce qui affecte leur santé, notamment leur santé reproductive, leur accès à l'éducation et leur protection contre d'autres formes d'abus, écrit l'ONG dans un communiqué publié aujourd'hui.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Union européenne fustige la dissolution du système de surveillance des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord et son programme nucléaire tel qu'imposé par la Russie. Pour sa part, le département d'État américain accuse Moscou de saper la paix et la sécurité dans le monde. Nathalie Barge.
L'Union européenne a estimé que le veto russe est une tentative visant à dissimuler des transferts illégaux d'armes entre la Corée du Nord et la Russie. La Corée du Nord est soumise depuis 2006 à des sanctions du Conseil de sécurité liées à son programme nucléaire. Depuis 2019, la Russie et la Chine, mettant en avant la situation humanitaire de la population nord-coréenne, réclament l'allègement de ces sanctions. N'ayant pas obtenu gain de cause, Moscou a pris pour cible le comité d'experts chargé de surveiller l'application des mesures en mettant son veto à un projet de résolution prolongeant d'un an le mandat du comité. Le texte a recueilli 13 voix pour, la Chine s'étant abstenue. Soutenue par Pékin, la Russie a proposé au Conseil une réévaluation du régime des sanctions. Le département d'État américain a de son côté accusé la Russie de saper avec cynisme la paix et la sécurité dans le monde. Tout cela pour favoriser un troc vicié que Moscou a scellé avec Pyongyang sur l'armement. Ce veto n'est pas un signe de l'inquiétude pour la population nord-coréenne, a estimé l'ambassadrice britannique à l'ONU, Barbara Woodward. Il ne peut y avoir de justification à la disparition des gardiens du régime de sanctions, a déclaré l'ambassadeur sud-coréen Jo-kook Wang. Dans son dernier rapport, le comité onusien précise enquêter sur des informations faisant état de l'exportation par la Corée du Nord d'armes et de munitions vers la Russie en violation des sanctions internationales.
Au moins 42 militaires syriens et combattants du Hezbollah libanais ont été tués aujourd'hui dans des frappes israéliennes à Alep, dans le nord de la Syrie. Alexandrine Roulognon.
Les frappes ont fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et les soldats, selon une source militaire citée par l'agence officielle syrienne Sana. Des usines qui relèvent du ministère syrien de la Défense à Safira, près d'Alep, ont également été visées. Il s'agit du bilan le plus lourd pour l'armée syrienne dans les frappes israéliennes en Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a dénoncé une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Il a qualifié ces attaques de tentatives flagrantes et désespérées de prolonger et d'étendre la crise dans la région. L'armée israélienne avait annoncé en mars avoir atteint environ 4500 cibles du Hezbollah au Liban et en Syrie, dont plus de 1200 par des frappes aériennes depuis le début de la guerre à Gaza.
Le président américain Joe Biden assure travailler sans relâche pour obtenir la libération du journaliste Evan Gerskovitch, emprisonné depuis un an en Russie pour espionnage. Le journalisme n'est pas un crime et Evan s'est rendu en Russie pour faire son travail de reporter, mettant en péril sa sécurité pour faire connaître la vérité sur l'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine, a déclaré le président Biden dans un communiqué aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire douloureux de l'arrestation d'Evan Gerskovitch, 32 ans. Nous n'avons jamais envisagé qu'une telle situation arrive à notre fils et frère, et encore moins de passer une année entière dans l'incertitude, affirme la famille du journaliste dans une lettre au lecteur du Wall Street Journal, son employeur. Mais malgré cette longue bataille, nous restons forts, ajoute-t-elle. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
La compagnie nationale turque Turkish Airlines a repris ses vols vers la Libye, interrompus depuis 10 ans. Le premier vol a relié Istanbul à Tripoli jeudi et d'autres suivront vers Misrata et Benghazi à raison de 3 vols par semaine, les mardis, jeudi et samedi. Le PDG de la compagnie, Bilal Eksi, a déclaré que le tourisme et le commerce continueront d'augmenter à moyen et long terme avec le développement des investissements industriels. Turkish Airlines décide 346 destinations dans 130 pays, dont 62 en Afrique. Au Soudan, l'arrêt d'un oléoduc stratégique dans le pays en guerre menace de déstabiliser le Soudan du Sud voisin, privé de revenus pétroliers cruciaux, estiment des experts. La nouvelle a filtré avec la révélation d'un courrier du 16 mars adressé par le ministre soudanais de l'énergie et du pétrole à ses partenaires chinois et malaisiens, annonçant qu'une rupture a été constatée dans l'oléoduc transportant du pétrole brut depuis le Soudan du Sud jusqu'à Port-Soudan. L'entreprise Dubaiyot Avitera a conclu un accord avec PAL 5 Liberty pour introduire des voitures volantes en Afrique et au Moyen-Orient. Soutenue par le géant mondial de l'aviation d'affaires Jetex, elle mise sur une demande de mobilité aérienne régionale. Le PAL 5 est une véritable innovation qui changera la mobilité telle que nous la connaissons, a déclaré le PDG d'Avitera, Mouanad Wada, soulignant que l'autogir permet d'améliorer la flexibilité des déplacements et répond au besoin de voyager à l'écart des routes encombrées avec une autonomie de vol de 500 km et une vitesse maximale de 180 km/h.
Et maintenant, la page sportive avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Jacques.
Commençons par le football africain avec les compétitions interclubs qui reprennent leurs droits ce week-end.
En quart de finale de la Ligue des champions CAF Total Energy, la Tanzanie aligne 2 représentants avec le Simba AC qui accueille Al Ahly, champion d'Afrique en titre, vendredi. Le samedi, les Young Africans s'affronteront Mamelodi Sundowns. En RDC, le tout-puissant Mazembe reçoit le Petro Luanda à Lubumbashi, suivi du choc ASEC Mimosa contre Espérance Sportive de Tunis.
En quart de finale de la Coupe de la Confédération CAF Total Energy, tout se jouera dimanche.
Les Nigérians de Rivers United croiseront l'USM d'Alger, tenant du titre. Dumps FC du Ghana se déplace à Bamako pour affronter le Stade malien, vainqueur de l'édition 2009. RS Berkane se rend pour sa part en Libye pour affronter Abu Salim. Enfin, Zamalek croisera le fer avec Modern Future FC dans un derby égyptien.
Football européen, Xabi Alonso restera entraîneur de Bayer Leverkusen la saison prochaine.
Convoité par plusieurs grands clubs européens, notamment Liverpool et le Bayern Munich, le technicien espagnol a mis fin aux spéculations lors d'une conférence de presse ce vendredi. Alonso a révélé avoir réfléchi à la situation et eu une bonne réunion avec le président et le directeur sportif de Leverkusen. C'est à cette occasion qu'il leur a fait part de sa décision de continuer avec le club.
Jeux Olympiques Paris 2024, les syndicats et le patronat réclament au gouvernement un dispositif de compensation intégrale pour les entreprises situées dans les périmètres de sécurité des sites des Jeux.
Dans un courrier transmis au ministère concerné, le comité de suivi de la charte sociale du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris réitère sa demande au pouvoir public d'un dispositif de compensation intégrale pour les entreprises et les salariés qui se verraient empêchés dans leurs activités du fait des Jeux olympiques de Paris et des mesures de sécurité qu'ils imposent.
Est-il quelques résultats des matchs d'hier soir de la NBA, la Ligue professionnelle de basketball des États-Unis.
Deuxième victoire des Hawks d'Atlanta en 4 jours contre les Celtics de Boston, 123 à 122 après prolongation. La Nouvelle-Orléans a de son côté défait Milwaukee, 107 à 100.
Les sports, Timothée de Longmaille, merci bien Tim. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 29 mars 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. D'emblée, retour au Sénégal qui se prépare à la passation des pouvoirs entre Bassirou Diomaye Faye, le vainqueur de la présidentielle de dimanche dernier, et le chef de l'État sortant, Macky Sall. Les deux hommes se sont rencontrés hier au Palais de la République pour discuter en profondeur des grands dossiers de l'État. Justement, qu'attendent les Sénégalais de celui qui va devenir, à 44 ans, le cinquième et le plus jeune président de ce pays de 18 millions d'habitants. Écoutons quelques-uns d'entre eux dans ce reportage que nous a fait parvenir Alison Fernandez, notre correspondante à Dakar.
Modou Diagne tient cette quincaillerie depuis presque 10 ans dans le quartier des Mamelles à Dakar. Mais pour ce père de famille, les conditions de vie ces dernières années sont devenues très difficiles. C'est pour cela que, comme plus de 54% des électeurs sénégalais, il a voté à la présidentielle pour le candidat de la rupture, Bassirou Diomaye Faye, une manière également pour lui de sanctionner le régime de Macky Sall. Vie chère, problème d'employabilité, casse-tête du logement. Pour certains étudiants rencontrés devant l'université Cheikh Anta Diop, voilà les défis auxquels devra rapidement s'attaquer le nouveau président. Rappelons qu'après les manifestations de juin 2023, les cours à l'UCAD ont été suspendus pendant 9 mois. Ils ont repris il y a quelques semaines à peine. Écoutons tour à tour Elidiata et Mariama Badji.
Il y avait tellement de problèmes ici. Oui, des perturbations à n'en pas finir. Des gens sont là depuis des années, ne parviennent pas à étudier correctement. Les gens diplômés sont là, qu'ils ont des problèmes à retrouver de l'emploi.
On n'a pas de travail, on a faim, on a pratiquement rien du tout en fait. Même pour sortir de ce pays, c'est difficile. Beaucoup sont là, ils ont des travails, mais pas par mérite quoi. Je crois qu'avec Diomaye tout va changer en fait. Voilà.
Tenant d'une ligne souverainiste, Bassirou Diomaye Faye a énoncé comme ses chantiers prioritaires la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie. Pendant sa campagne électorale, sa coalition a également dit soutenir l'idée d'une monnaie ouest-africaine régionale. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les autorités zimbabwéennes se disent préoccupées par la recrudescence de la criminalité, en particulier celle liée au vol à main armée, alors que l'application de la loi a conduit les agents des forces de l'ordre à tirer sur des suspects et à les tuer. Dans ce reportage réalisé par Columbus Mavunga à Harare, des analystes affirment que le taux de criminalité au Zimbabwe augmente parce que la pauvreté a laissé les gens dans des conditions désespérées. Le récit est de Thierry Kaoré.
Peter Hapaule, un vendeur ambulant de Harare, dit qu'il a vu des escrocs opérer dans son quartier et conclure des accords louches et vendre des marchandises qui s'avèrent ne pas exister. Mais ce n'est pas tout, dit-il.
Le taux de criminalité augmente, les cas de meurtre augmentent. Alors, je supplie la police de travailler davantage pour que les citoyens craignent de commettre une infraction. La police doit être respectée et doit appliquer les lois avec diligence, parce qu'il semble maintenant que nous soyons dans un pays sans loi où des gens assassinent d'autres personnes librement.
Selon les chiffres officiels, le taux national de criminalité du Zimbabwe au troisième trimestre 2023 s'élevait à 1202, pour 100 000 habitants, en légère hausse par rapport au deuxième trimestre. Le gouvernement a signalé 1098 actes criminels ayant entraîné la mort ou ayant l'intention de causer la mort au cours de la même période, contre 958 au troisième trimestre de 2022. Récemment, les forces de police zimbabwéennes se sont déclarées préoccupées par une augmentation de vols à main armée, dont certains impliquent des membres ou anciens membres de la sécurité de l'État. Dans certains cas, la police a tué des suspects lors des fusillades ou lorsque les suspects ont tenté de s'enfuir. Albert Ngoulou, qui dirige la commission parlementaire de la défense, des affaires intérieures, des anciens combattants et des services de sécurité, affirme que la police est parfois un sous-effectif.
La police, avec des ressources limitées, essaye. Notre taux de criminalité n'est pas comparable à celui de l'Afrique du Sud. Nous sommes encore mieux lotis en Afrique. Je pense donc que nos policiers font de leur mieux, même si certains leur reprocheront qu'ils ont la main lourde. Tout ce que nous voulons en tant que comité, c'est la paix dans ce pays.
Aubert Muzembe, criminologue au cabinet d'avocats Muzembe, affirme que la faiblesse de l'économie du Zimbabwe et la persistance d'une inflation élevée ont poussé de nombreuses personnes à commettre des crimes pour survivre.
Et puis, deuxièmement, vous regardez le tissu social. Nous avons eu beaucoup de migrations, des gens qui se sont déplacés vers l'Afrique du Sud, vers le Royaume-Uni. Cela a créé une société sans parents. En conséquence, les jeunes grandissent sans conseil, sans mentorat, et ils sont obligés de se livrer à des activités illégales.
Muzembe recommande au gouvernement de trouver un moyen d'améliorer l'économie et aux institutions religieuses et à la société civile de faire plus d'efforts pour enseigner la bonne conduite à la population.
Les contributions vitales des femmes africaines et leur présence dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, de même que les défis auxquels elles sont confrontées, ont été au cœur d'une toute première conférence tenue sur le sujet il y a quelques jours dans la capitale américaine. La rencontre a été organisée par l'UNESCO et des membres de la diaspora africaine de la région appelée DMV, comprenez celle qui réunit Washington DC, le Maryland et la Virginie. C'est un reportage d'Anit Talani.
L'événement a été organisé par CEWA USA, l'association des ressortissants de la RCA aux États-Unis, la Fédération américaine des clubs UNESCO et les associations africaines du DMV à l'Université catholique de Washington DC, donnant lieu à des conférences et des discussions inspirantes. Manuela Baikon, doctorante en économie de développement et présidente de CEWA USA, a souligné l'importance des STEM pour la promotion des femmes africaines.
Les statistiques de l'UNESCO montrent seulement 30 à 33% des femmes sont des chercheurs dans le monde. Et ce nombre est encore très peu pour les femmes africaines qui n'ont pas beaucoup d'accès au domaine de la science et de la technologie, et ce qui retarde dans leur progrès et ce qui les empêche de s'adapter facilement au monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi il est important d'avoir cette conversation difficile et voir comment nous pouvons contribuer à l'amélioration des choses.
Guy Joken, président de la Commission nationale américaine pour les clubs, centres et associations UNESCO, est l'un des organisateurs de l'événement, s'est fait l'écho de ce sentiment.
La clé pour faire passer nos femmes au niveau supérieur est de se concentrer sur la science et la technologie. Il faut parler des défis qui empêchent les jeunes femmes africaines d'accéder à la science et à la technologie et les célébrer. Ce sont les rares qui ont travaillé dans ce domaine et c'est ainsi qu'elles émergent. Je suis vraiment heureux que nous ayons cet événement aujourd'hui et nous prévoyons d'en faire un événement annuel.
Guy Joken a également souligné l'importance du mentorat, de la sensibilisation et de la collaboration avec les parties prenantes pour stimuler les femmes et les jeunes filles africaines intéressées par les STEM. Bézé Kemanjong, une jeune lycéenne caméruno-américaine de 17 ans qui aspire à devenir avocate, a fait part de son point de vue sur l'importance des STEM pour les jeunes femmes. C'était la plus jeune panéliste à l'événement.
Les STEM sont vraiment importants pour les jeunes femmes, en particulier dans mon domaine, parce qu'ils déterminent nos lois et nos politiques et ce que nous allons vivre à l'avenir. Nous avons donc besoin de nous voir dans cette position de pouvoir. C'est pourquoi je pense qu'il est important que les femmes noires occupent des postes de pouvoir, en particulier dans le domaine des sciences, afin que nous sachions comment prendre soin de nous-mêmes.
À travers une série d'interventions inspirantes, d'échanges enrichissants et de témoignages puissants, l'événement a célébré le génie et la résilience des femmes africaines. Il a également ouvert des discussions essentielles sur l'importance capitale de l'inclusion et de l'autonomisation dans le secteur des STEM qui englobe les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.
Les États-Unis ont un besoin urgent de travailleurs dans le domaine de la construction, selon un groupe représentant le secteur. Les organisations à but non lucratif affirment que les nouveaux migrants qui ont submergé certaines villes américaines ces derniers mois pourraient aider à résoudre ce problème. Mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est un reportage de Jyoti Reki à New York. Le récit est de Rosine Munezero.
C'est un mardi matin à la Colmena State and Island Community Job Center. Cette association à but non lucratif de la ville de New York aide les travailleurs immigrés à obtenir une formation professionnelle. Marie-Louise Villamar, équatorienne de 20 ans, fait partie des nouveaux arrivants choisis sur une longue liste d'attente pour suivre une formation à la sécurité sur les chantiers de construction. Les règlements de la ville de New York exigent ces cours. Selon la Colmena, ils coûtent entre 600 et 1000 dollars. Mais que l'organisation les propose gratuitement et en espagnol. Marilyn Villamar.
Ce programme m'a aidé à me donner une chance. Je vais y entrer pour trouver un emploi dans la construction.
Selon l'organisation Associated Builders and Contractors, le secteur de la construction devra recruter plus d'un demi-million de travailleurs supplémentaires en 2024 pour répondre à la demande. Ce chiffre vient s'ajouter au rythme normal de croissance du secteur qui est d'environ 200 000 à 300 000 travailleurs par an. Anniban Basso est l'économiste en chef d'ABC.
La pandémie a incité de nombreuses personnes à prendre leur retraite prématurément. Et sans un afflux suffisant de jeunes travailleurs, de jeunes gens dans les métiers de la construction, vous allez avoir une pénurie structurelle.
Mais Arleta Cepeda explique que l'association a besoin d'un financement du gouvernement fédéral ou de l'État pour continuer à offrir une formation gratuite au nombre croissant de candidats migrants. Arleta Cepeda, directrice adjointe de la Colmena.
Je pense que tout le monde y gagne et que l'État devrait y investir. Je pense que cela pourrait même répondre à certaines des préoccupations de l'État concernant les dépenses dans les services sociaux. Si les gens ont un emploi, ils peuvent se permettre d'autres choses.
Mais certains politiciens locaux estiment que dépenser l'argent des contribuables pour aider les migrants nouvellement arrivés est injuste pour les citoyens américains. Vito Fossella, président de l'arrondissement de Staten Island.
Je ne vois pas comment quelqu'un de sensé peut penser que c'est une bonne politique pour les États-Unis. Je comprends, il y a des gens qui veulent travailler, mais il y a aussi beaucoup de citoyens américains qui veulent également travailler. Essayons de les aider.
Le maire de New York, Eric Adams, affirme que sa ville est prête à dépenser plus de 12 milliards de dollars jusqu'en juin 2025 pour atténuer la crise des demandeurs d'asile. Pour Vito Fossella, c'est inacceptable.
Lorsque nous avons demandé une estimation il y a plus d'un an et demi, il s'agissait d'un demi-milliard de dollars pour faire face à la crise des migrants dans la ville de New York. Aujourd'hui, on estime qu'il faudra 10 à 12 milliards de dollars en un an et demi, ce qui représente environ 143 000 dollars par migrant et par an.
Les experts du secteur de la construction partagent cependant le sentiment de la Colmena, selon lequel un investissement dans les nouveaux arrivants en Amérique est un investissement dans l'avenir. Anniban Basso, économiste en chef d'ABC.
Lorsque vous avez une dette nationale massive et que vous avez beaucoup de main-d'œuvre potentielle dans le pays, vous devez commencer à penser à utiliser cette main-d'œuvre potentielle de manière plus efficace.
La plupart des experts affirment que le coût initial de l'intégration des migrants dans une communauté peut être élevé, mais que les avantages sociaux et économiques à long terme l'emportent souvent sur ces investissements.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 mars 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir. Take care.